Nous allons commencer notre soirée, notre vacances culturelles. Si vous n'avez pas de petit carré champ, vous allez pouvoir vous promener, faire un peu de sport. Sinon, on va vous en apporter un. Et ça sera page 30. Et donc, vous êtes déjà debout, vous restez debout. On était déjà habillé. Alors dans ce temps de silence, avant de... suivre cette rencontre. Seigneur, nous voulons nous confier nos cœurs pour les rendre toujours plus disponibles à ta parole, à ta présence, à ta bienveillance, à ta bonté, à ta tendresse. Seigneur, nous te confions tout ce que nous entendons, tout ce que nous méditons, tout ce que nous partageons dans la simplicité de notre fraternité. Avec toi, Jésus, qui nous a permis à prier, qui nous oriente vers ton Père, nous aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi.
Merci beaucoup. Bienvenue à ceux qui étaient là le mois dernier, bienvenue peut-être à ceux qui arrivent pour la première fois. Nous allons parler ce soir plus du côté de notre cœur, le cœur du monde, avec une anthropologie, et je reparcourrai la première partie de l'encyclique du pape Dilexit Nos, les 30 premiers numéros. Qu'avons-nous fait le mois dernier? Nous avons d'abord réfléchi sur le sens à donner à la consécration au cœur de Jésus. Et nous l'avons fait à partir de la vie de Jésus, et particulièrement dans la relation à l'Eucharistie, puisque c'est à ce moment-là qu'il signifie le don total de sa vie avant d'aller à la Passion. Et nous avons vu comment le Christ dans sa vie a enseigné, guéri, sauvé, appelé pour envoyer en mission, apporter la bonne nouvelle. Le cœur de Jésus, je le répéterai un certain nombre de fois, je dirais c'est le résumé de l'ensemble de l'Évangile. Une question avait été posée, que je reprends parce que peut-être la réponse que j'ai donnée n'était pas encore tout à fait nette. La question c'était, pouvez-vous nous dire en quoi il va falloir ajouter à nos dévotions habituelles la dévotion au cœur de Jésus? Est-ce que ça va faire une dévotion de plus? Avec le risque, je dirais, d'en rajouter et d'en rajouter et finalement, je dirais de ne plus quoi savoir choisir. Eh bien, ce que je ressens pour ma part, c'est que le cœur de Jésus n'est pas une dévotion supplémentaire. Le cœur de Jésus doit pouvoir simplifier l'ensemble de nos dévotions en les unifiant. Voilà. Les spiritualités sont toutes des spiritualités particulières. Il y a des spiritualités contemplatives, il y a des spiritualités caritatives vers les pauvres, Saint Vincent de Paul, il y a des spiritualités missionnaires, il y a des spiritualités de type d'enseignement, pour les jésuites plus de discernement et peut-être de disponibilité là où il y a besoin. Chacune développe un aspect de la vie de Jésus. Le cœur de Jésus rassemble tout cela. Et du coup, j'ai du mal à dire que le cœur de Jésus serait une spiritualité. Non, pour moi, c'est celle qui est au-delà de toutes les spiritualités. C'est celle qui rassemble tout. Le cœur de Jésus, c'est une manière de parler du cœur de la Bible. La Bible a un cœur vivant. Lorsque nous ouvrons ce livre, eh bien, nous pouvons entendre le cœur de Jésus qui bat. Ce qui donne le sens à la Bible, c'est ce cœur. Alors, vous voyez que c'est nécessaire de parler avec un autre mot que de dire Jésus. Ce qu'on pourrait dire, Jésus, c'est le cœur des Écritures. Mais ce que je viens de dire se dit quand même beaucoup mieux en parlant de son cœur. Dans la deuxième partie de l'introduction que j'avais faite, j'ai parlé de Moïse. Dieu appelle Moïse. Dieu appelle Moïse pour l'envoyer en mission. Et Moïse est fondamentalement un homme tourné vers la justice, qui ne supporte pas l'injustice. Il l'a montré en tuant l'Égyptien, en intervenant auprès de deux Hébreux qui se disputaient, etc. Et puis, c'est un homme qui est disponible. Quand Dieu l'appelle, il lui dit « Me voici ». Voilà, c'est spontané. « Me voici ». Et puis quand Dieu veut l'envoyer en Égypte pour délivrer son peuple et d'aller parler à Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple, alors curieusement, Moïse pose une question en disant « Mais qui suis-je pour aller là-bas ?» Et Dieu va lui répondre « Je serai avec toi ». Ou bien « Je suis avec toi ». Jusqu'à ce que Moïse finalement dise « Non Seigneur, je ne peux pas y aller. Envoie s'il te plaît qui tu voudras. » Il y a en Moïse une formidable envie de dire oui et cacher quelque part une envie peut-être aussi forte de dire non. Non, parce qu'il risque sa vie à retourner en Égypte. C'est pas rien. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. L'identité de Moïse n'est pas d'abord ce qu'il a construit lui-même. L'identité de Moïse, c'est la parole que Dieu lui dit, je serai avec toi. N'aie pas peur, je serai avec toi. Et c'est une identité qui dépasse toutes les identités que nous pouvons nous construire. Mystérieusement, au terme de cet entretien, Moïse ne dit pas oui à Dieu, mais il va voir son beau-père pour lui dire « Donne-moi la permission d'aller en Égypte pour voir où en sont les copains. » Le nom définitif qu'il a pu dire, il l'a dit devant Dieu. Et curieusement, ce nom a fondu comme de la neige au soleil. Et ça a fait oui. Voilà le mystère. L'œuvre de Dieu en nous. Il accueille ce que nous avons à dire et puis il transforme. Nous allons encore avoir un autre exemple ce soir. Deux parties pour ce soir. Une première partie avec l'encyclique Dilexit Nos. Je vous avais invité à lire, dans la mesure du possible, les 30 premiers numéros de l'encyclique, toute la première partie. Voilà. Comment est-ce que je pourrais donner un titre à cette soirée? Ouvrir mon cœur au cœur du Christ. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et dans cette première partie de l'encyclique, le pape introduit une réflexion qu'il adresse à la fois aux hommes de bonne volonté, pas simplement les chrétiens, et qu'il adresse aux chrétiens. Quelle place pour le cœur dans nos vies? Dans sa réflexion, le pape alterne des paragraphes où il témoigne de la foi chrétienne et d'autres paragraphes où il cherche des mots humains pour aider à percevoir le rôle original et irremplaçable du cœur pour l'humanité. Il ne démontre pas, c'est pas son propos, il affirme. Il affirme avec une certaine abondance, avec du lyrisme, de la poésie. Voilà. Pour lui, il dit l'importance du cœur, à la fois pour nous, les êtres humains, et pour le monde. Alors d'abord, il prend quelques définitions. Le cardia, le cœur, c'est l'intime de la vie. La vie humaine, on pourrait dire, celle de nos relations humaines, la vie animale, la vie végétale. Trois secteurs, c'est-à-dire la vie, le cœur, ne concerne peut-être pas simplement les humains. Et le cœur est le centre corporel, émotionnel et spirituel de la personne. Centre corporel, émotionnel, spirituel de la personne. Le cœur est aussi le centre du désir, le lieu où se prennent les décisions importantes, celles qui engagent profondément notre vie. Les décisions amoureuses, c'est pas d'abord avec l'intelligence et la raison que nous prenons, c'est le cœur qui nous fait décider. Le cœur, c'est aussi un centre unificateur qui donne sens et unification. Alors le cœur, il a des antennes du côté de l'intérieur de ce qui se passe dans notre organisme, et si nous courons, le cœur se met à battre plus vite, il a compris qu'il y avait besoin d'oxygène dans les muscles. Et il fait son boulot. Il a des antennes un peu partout, à l'intérieur, et il comprend ce qu'il a besoin de faire. Le cœur aussi est en lien direct avec les yeux, les oreilles, le goût, le sentir, le toucher. C'est ouvert sur l'extérieur. très vite, à partir du cinquième paragraphe, le pape affirme deux choses qui sont en tension. La première, le cœur est le lieu de la sincérité où l'on ne peut ni tromper ni dissimuler. Le cœur ne ment pas. Première affirmation. C'est l'affirmation peut-être la plus fondamentale. Notre cœur est droit. Et la deuxième affirmation qui semble parfaitement contredire cette première affirmation, il prend une citation du prophète Jérémie, « Le cœur est rusé plus que tout et pervers. Qui peut le pénétrer ?» Qu'est-ce que nous pouvons comprendre ? Le pape n'explique pas. Mais nous pouvons sentir à l'intérieur de nous-mêmes que ça correspond bien à l'expérience que nous avons. Ces deux dimensions de sincérité et de ruse, voire de perversité, sont présentes en nous. Qui n'a pas eu l'envie de se venger et de ruminer à l'intérieur de son cœur quelque chose pour trouver sa vengeance? Les deux choses. Ainsi, au début de son encyclique, le pape nous met face à cet enjeu humain fondamental. Au fond du cœur règne la sincérité. Alors il dit en surface, le cœur peut être perverti par les pires choses humaines. Et il nous donne un conseil en disant, plus que toute chose, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Écarte loin de toi la bouche perverse. Autrement dit, il y a un travail à faire au niveau de notre humanité et au niveau de notre cœur pour que quelque chose de bon puisse émerger. Le pape interpelle chacun de nous et le pape interpelle le monde entier pour dire « prenez soin de votre cœur ». Comment prendre soin de son cœur? Eh bien, à chaque instant de notre vie, il y a une sorte de discernement à faire. Il faut réfléchir, voir qu'est-ce qui me pousse d'un côté, qu'est-ce qui me pousse de l'autre côté. Il s'agit de choisir ce qui est bon et d'écarter ce qui ne l'est pas. Et puis d'écarter peut-être aussi la tentation de se divertir. C'est-à-dire de ne pas mettre le cœur à la place qu'il mérite. Je vais y revenir dans un instant. Voilà, l'homme risque au fond de vivre sa vie en surface et de ne pas se poser les bonnes questions ou les vraies questions. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui ordonne ma vie? Quels sont mes choix? Le pape parle d'un monde liquide. Voilà, je trouve le mot assez suggestif. Voilà, ça nous échappe entre les doigts. Et ce monde, au fond, dévalorise le cœur au profit du rationalisme. Et c'est pas une tentation récente, c'est une tentation très ancienne. Il fait remonter ça aux temps anciens. Avant de reparler des tentations, je voudrais ajouter un aspect fondamental de notre cœur. Le cœur, c'est la sensibilité, l'affectivité, et c'est aussi l'ouverture. Le pape a cette expression qui est un tout petit peu compliquée. Notre cœur coexiste avec les autres cœurs qui l'aident à être un tu. Notre cœur coexiste avec les autres cœurs qui l'aident. Donc les autres cœurs aident mon cœur à pouvoir être un tu, T-U, c'est-à-dire d'avoir une relation avec les autres. Et une relation pas simplement qui passe par la tête, ou par l'intérêt, ou par le commerce, mais une relation qui passe par le cœur. Et c'est cette relation qui passe par le cœur, qui se tisse entre nous, ce sont ces relations-là qui me donnent mon identité. Aujourd'hui dans la société, je parle de la société française, nous sommes tentés de dire « Ah ben c'est à chacun de découvrir son identité, de découvrir son caractère, de découvrir ce qu'il a envie. » Vous voyez comment le pape prend tout à fait un autre chemin pour dire « Notre identité, elle se construit avec et par les autres. » Et le pape, cette citation que j'ai citée, c'était dans le 12e paragraphe de Dilexipnos, et il va continuer comme ça à dire l'importance de l'ouverture du cœur jusqu'au paragraphe 25. Sur le plan spirituel, le pape dit, ça c'est le paragraphe 25, que le cœur croyant qui s'ouvre au Seigneur et cherche à le suivre réalise qu'il est le tu de Dieu et que du coup il peut être un je, parce que Dieu est un tu pour lui. Mais au niveau spirituel, la relation qui peut se nouer avec Dieu, c'est de pouvoir lui dire tu. Et lui, en retour, il peut me dire « tu ». Et nous avons vu avec Moïse comment lorsque Dieu dit « je serai avec toi », Dieu lui donne véritablement son identité, sa solidité, son fondement. Et cela, c'est par le cœur que ça passe. C'est par la relation affective. C'est par l'ouverture. L'ouverture au monde, aux autres, à Dieu, en partie aussi à ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, pour que je puisse l'accueillir sans juger. L'ouverture au monde, aux autres, à Dieu, à moi-même, c'est tout cela qui va nous donner et qui nous donne à chacun notre véritable identité. je reviens aux tentations. La tentation du monde, quelle est-elle? Eh bien, nous avons vu que le cœur nécessite un discernement, un travail permanent. Et le monde a plutôt envie de mettre de côté le cœur pour se construire sur la rationalité, sur la raison. C'est-à-dire, on définit des principes et ensuite, d'une façon logique, scientifique, technique, on les déroule. Vous voyez comment le monde cherche à maîtriser l'ensemble de la vie. Peut-être pour lui donner du sens. Mais si le sens, c'est d'abord des principes qu'on s'est donnés à nous-mêmes, vous voyez qu'il y a quelque chose qui boucle en fermeture. Le monde, technique, scientifique, le monde économique, financier, etc., dit au cœur, écoute, occupe-toi de tes affaires, et nous, on s'occupe des nôtres. Comme ça, on est efficace. Du coup, le cœur, oh ben tu fais ce que tu veux, hein. Il est laissé de côté. Mais dans cette mise à l'écart, ça arrive aux sociétés, ça nous arrive à nous aussi, n'est-ce pas, quand nous grimpons dans notre tête et que nous nous disputons avec des arguments que nous nous jetons à la tête les uns des autres, c'est ça qui se passe. Il n'y a plus de cœur pour s'ouvrir et entendre. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu penses? Comment tu vois les choses? Pour que quelque chose se construise entre nous. Lorsque le cœur est dévalorisé, alors il est comme renvoyé à la vie privée et aux initiatives privées. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, je dirais dans ce monde laïque que nous vivons, la tentation aujourd'hui, c'est de faire du monde laïque une sorte de forteresse où le cœur, mais aussi les convictions personnelles, les croyances, n'ont pas de place. Lorsque le cœur est rejeté à l'écart, toujours la question du sens et la question spirituelle sera aussi mise à l'écart. Et pour une part, suspectée. Suspectée de trafic, suspectée de principes étrangers. Voilà. Du coup, nous voyons dans la société, elle se désintéresse des initiatives qui sont venues à partir du cœur, sauf si, éventuellement, ça l'intéresse. Par exemple, l'enseignement catholique, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la Croix-Rouge, le Secours Catholique et une multitude d'associations au service de la personne. Lorsque la société découvre que c'est une bonne aide pour elle, et ça lui coûte moins cher que d'organiser les choses, alors elle peut aider à financer telle ou telle initiative. Lorsque le cœur est mis à l'écart, le cœur n'est pas encouragé à donner le meilleur de lui-même. En effet, nous voyons bien comment la société nous pousse à la consommation, qui favorise la superficialité et qui nous invite à peu près constamment à des coups de cœur. Vous avez une promotion, ça va durer 10 minutes. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Ça dure une semaine. Voilà. Le cœur a besoin de temps pour pouvoir réfléchir et sentir les choses. Le cœur, du coup, est poussé vers une caricature de lui-même. Il est repoussé du côté de l'affectivité, de l'impulsivité. Et ça, c'est pas le cœur, hein. Le pape pousse un cri. Il dit, la société mondiale est en train de perdre son cœur. La société mondiale est en train de perdre son cœur. Et si nous perdons notre cœur, alors nous voyons bien ce qui se passe aujourd'hui comme ambiance. C'est une ambiance de rivalité, de compétition qui va s'installer et non pas une ambiance de recherche, de rencontrer l'autre, de le comprendre, de discuter ensemble, de négocier. Voilà. Et tout cela, c'est un travail extraordinairement difficile. Il ne faut pas se le cacher, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup, pour ma part, ce beau passage biblique où Dieu demande au jeune roi Salomon qui vient de monter sur le trône, Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux. » Et Salomon répond « Donne-moi un cœur plein de jugement pour discerner entre le bien et le mal afin de gouverner ton peuple. » Donne-moi un cœur. Et un cœur plein de jugement. Oh ! Là, nous avons quelque chose qui est absolument important. Nous avons parlé de la rationalité d'un côté et du cœur de l'autre côté. Qu'est-ce que nous dit Salomon, et Dieu se réjouit de la demande de Salomon. Et Dieu lui donne un cœur intelligent et sage. Où est l'intelligence ? Pour la Bible, du côté du cœur. Car c'est le cœur qui fait la synthèse. C'est le cœur qui peut rassembler l'ensemble des mouvements de la personne, parce que le cœur écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le cœur est ouvert sur le monde, avec tout ce que nous pouvons sentir, et pour une part, c'est notre vocation. Et donc, si le cœur fait la synthèse, c'est bien le cœur qui est intelligent. Il ne faut pas confondre la raison, la capacité de faire des raisonnements et l'intelligence. L'intelligence est humaine. La raison est mécanique, pour une part. Et on voit bien comment la raison, pour être tranquille à raisonner avec ses concepts, n'a qu'une envie, c'est de dire au cœur, écoute, hein, c'est pas le moment, laisse-moi tranquille, pour l'instant je raisonne. Le cœur, oui, respecte la raison. La raison, elle, a envie de repousser le cœur. Et le cœur doit dire à l'intelligence, écoute, raisonne un peu correctement. Mais la synthèse, l'intelligence véritable, l'intelligence humaine, c'est le cœur. C'est comme ça que j'entends la parole de l'Évangile. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme les colombes. Ayez un cœur, mais ayez aussi du jugement. Ayez une tête. Voilà. Mais n'oubliez pas votre cœur. Alors le pape aussi, il développe deux autres aspects. Je ne vais pas prolonger trop, parce que je vois que le temps avance. Un premier aspect, le cœur rassemble les fragments. Il rassemble les fragments de nos histoires. J'ai dit que le cœur rassemblait tout ce que nous pouvons éprouver à l'intérieur et à l'extérieur. C'est lui qui fait le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et le pape ajoute, eh bien le cœur, c'est lui qui rassemble les fragments de nos histoires. Nos histoires qui sont à la fois heureuses et douloureuses. Comment se fait-il que dans ma mémoire, j'ai collectionné un certain nombre d'événements et d'images? Est-ce que j'aurais pu en collectionner d'autres? Peut-être. Ça s'est fait comme ça, je ne l'ai pas décidé. Mais qui est-ce qui a décidé alors? Bien, je crois que pour une part, le cœur a pu décider de ce qui allait être inscrit. Et c'est le cœur, finalement, qui va nous donner, peu à peu, de pouvoir ressaisir et comprendre, mais le sens de mon histoire. Est-ce que je peux m'en réjouir, finalement? Est-ce que je suis obligé de m'en lamenter parce qu'elle est trop lourde, trop difficile? Là encore, le cœur rassemble les morceaux. Et on peut entendre cette parole de l'Évangile, Marie gardait dans son cœur tous ces événements. Tous ces événements qu'elle ne pouvait pas comprendre au départ. La synthèse se fera après la résurrection de Jésus. Le cœur aussi, c'est par là que le Seigneur nous interpelle. Et l'image que le pape utilise, c'est le feu. Le Seigneur nous sauve en parlant à nos cœurs à partir de son sacré cœur. Alors c'est une image que je vais un petit peu développer. C'est notre cœur est un chantier. Nous avons vu qu'il y a à la fois c'est le siège de la vérité et puis en même temps il se passe en surface des choses que nous ne maîtrisons pas beaucoup. Nous pouvons dire notre cœur est un chantier et le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il nous demande la permission d'entrer. Et parfois, je dirais, nous avons l'impression qu'il n'a pas demandé la permission, mais qu'il entre quand même, comme un ouragan, comme un feu, comme une lumière, et qu'il nous donne de comprendre subitement une chose ou l'autre. C'est le Seigneur qui est capable de mettre de l'ordre dans notre cœur. Nous, par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et du coup, le Seigneur demande la permission en disant « Ouvre-moi ton cœur, s'il te plaît, que je puisse y entrer. » Nous voyons bien que si ce travail se fait à l'intérieur du cœur, à ce moment-là, nous sommes dans la dimension de l'amour. Vous voyez que l'amour par rapport à la raison, nous sommes à des distances assez grandes. Une dernière mention du pape, au paragraphe 30 et 31, il dit « Attention, notre cœur est fragile et blessé. Tous nos cœurs sont fragiles et blessés. Pour certains beaucoup, pour d'autres moins, mais nous sommes tous blessés. Et du coup, ce n'est pas sur notre cœur que nous pouvons vraiment nous appuyer, mais nous pouvons nous appuyer sur celui qui cherche à habiter dans notre cœur, le Christ. Le Christ vient visiter notre cœur, il le soigne, il le fortifie, il le redresse. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie, vous voyez, plus anthropologique, où nous avons